Il est 16h44, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Merci d'être des nôtres. Pour nous rejoindre, 418-971-1021 par texto, par téléphone, c'est le 418-780-1021. Vous adorez sa présence, ses récits, sombres mais remplis de son humanité. Judith Desmeules est en studio avec nous autres, journaliste judiciaire au Soleil. Salut Judith.
Allô.
Ça va bien?
Oui.
Des gros dossiers aujourd'hui?
Oui, grosse nouvelle.
Hey, le procès de Carl Giroir doit reprendre à zéro.
Oui.
Pourquoi?
C'est la Cour d'appel qui a rendu sa décision aujourd'hui et elle ordonne un nouveau procès. Donc, le verdict de culpabilité qui a été prononcé en mai 2022 vient d'être annulé.
Carl Giroir, c'est le tueur de l'Halloween. C'est celui qui a tué deux personnes dans les environs de la terrasse du Frein dans le Vieux-Québec.
Oui.
Un récit, d'ailleurs, qu'on va vous relater la semaine prochaine. Dans le podcast des grands événements de Boulevard 102.1, j'ai parlé avec un photographe
du mon Soleil, collègue.
Qui, écoute, Steve
Jolicoeur,
excuse-moi, j'ai vraiment pas la mémoire des noms, puis ça me déshonore.
Tu sais que c'est grâce à Judith,
fois.
En plus. Hein?
Absolument. D'ailleurs, on a parlé de toi un petit peu parce que t'es dans ce récit-là, veux pas.
Ouais.
Lui était sur le terrain le soir de l'Halloween, puis il est arrivé sur des scènes de crime avant les policiers, et c'est lui-même qui a pris les seules photo disponible de l'arrestation de Carl Giroir, ce qu'il a réussi à faire en se cachant dans le buisson de ce secteur-là. Donc, c'est vraiment son point de vue et son expérience qui va vous raconter quel genre de soirée il a passé. C'est fascinant pour vrai, là. Donc, c'est un drôle de hasard.
C'est un bon timing pour votre contenu, en tout cas.
Absolument, mais en même temps, ça fait quand même drôle de reprendre ce procès-là à zéro. Et c'est un point de droit qui est à la base de tout ça.
Oui, puis c'est ça, cette histoire-là avait marqué énormément Québec, mais aussi la province, parce que ça avait ébranlé notre sentiment de sécurité.
Mais oui.
On en a parlé beaucoup, puis je pense qu'avec la mosquée, c'est un des plus gros faits divers là, qui a marqué la ville.
Absolument.
Donc, c'est un procès lourd, c'est un procès émotif. C'est dur d'envisager de reprendre du début, 6 ans après les faits. Mais c'est ça qui va arriver parce que la Cour d'appel a décidé que dans les droits, c'était pas tout à fait correct. Puis, tu sais, la Cour d'appel, là, c'est rempli de technicalités.
Mm-hmm.
C'est vraiment des points de droit, là. C'est pas le côté, je dirais, humain, là, de la justice, là. On évalue si tout a été bien analysé. Le procès s'est tenu sur plusieurs semaines, comme je dis, au printemps 2022. Puis, Carl Giroir disait qu'il plaidait non criminellement responsable, en fait, pour troubles mentaux. Donc, lui est arrivé au château Frontenac le jour de l'Halloween déguisé avec un sabre japonais, puis il s'en est pris à 7 personnes sur son passage. C'est une cavale meurtrière.
Ouais.
Il a tué 2 personnes, il en a blessé 5 autres. Et lui, sa défense, il disait qu'il était atteint de schizophrénie depuis plusieurs années, puis que ça l'avait mené vers une certaine mission qui s'était donnée là, pour impressionner ses alter égaux. On parlait du bon Carl et du mauvais Carl. Donc, pour lui, il n'était pas en mesure d'évaluer que ce qu'il faisait était mal. Contrairement à la poursuite, lui, elle avait fait valoir que c'était plus un trouble narcissique qui était entraîné par le rejet qu'il avait subi toute sa vie, puis que lui avait agi là, en toute connaissance de cause.
Pour de l'attention.
Oui. Parce qu'il aimait pas le monde. C'est une haine qui s'était développée au fil des années, puis qu'il n'y avait pas de troubles mentaux qui pouvaient expliquer ça. Et le jury a donné raison à la poursuite dans ce premier procès-là, a pas retenu la thèse là, de schizophrénie. Mm-hmm. Et de tous bords, on avait entendu des experts. Là, c'était vraiment un débat d'experts là-dedans. Là, il y avait un psychiatre qui disait une chose, un autre en disait une autre. Donc, puis il faut savoir qu'un jury, là, ce sont des citoyens,
oui,
comme toi et moi, puis j'en ai souvent parlé, qui ont un cours de droit en quelques heures et doivent décider de ça. Et le jury est accompagné d'un juge
qui
de la Cour supérieure.
Qui donne des directives, des indications.
Exact. Des directives en début de procès qui lui dit explique comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut analyser, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et en fin de procès, on fait des directives qui peuvent des fois durer une journée entière là, pour qu'on rappelle des points de droit. Là. On explique des points de droit que ces gens-là ont étudiés pendant des années. On les explique en une journée pour que les jurys soient capables de faire la part des choses dans certains points.
Est-ce que c'est des choses, excuse-moi, qui arrivent juste quand c'est des procès avec jury?
des décisions de la Cour d'appel comme celle-là qui disent sur point de droit, donc on annule une décision d'un premier procès parce que c'est souvent un juge qui donne une mauvaise directive à un groupe de juges.
Ça peut arriver même. Ça peut être sur n'importe quoi. Là. Okay. Ça peut être le travail d'un juge en Cour du Québec.
Ça veut dire qu'un juge a erré dans cette partie-là de la décision.
Justement, le droit, c'est tellement de points et infini que tu peux te tromper sur plusieurs choses. Mm-hmm. En fait.
Et dans le cas qui nous préoccupe, dans le cas de Carl Giroir, c'est dans les directives de fin de procès qu'il y aurait eu un problème?
Les directives n'avaient pas été assez claires sur un point du procès. Dans le procès de Carl Giroir, on a parlé beaucoup de son silence lors de son interrogatoire policier.
Oui,
il a été arrêté, puis pendant 5h30, il a gardé silence, il n'a pas répondu aux questions des policiers. Puis dans un procès pour non-responsabilité criminelle, on doit d'abord analyser si la défense a prouvé qu'il y avait un trouble mental. Puis ensuite de ça, c'est une deuxième décision, on doit regarder si la poursuite s'est libérée de son fardeau, hors de tout doute raisonnable, de dire que Carl Giroir avait commis les crimes avec l'intention de tuer. Qu'il y avait vraiment... Il voulait là, faire du mal au moment de donner des coups de sabre dans le Vieux-Québec. C'est deux décisions distinctes. Puis, le droit au silence dans un interrogatoire policier, on n'en parle presque jamais parce que c'est un droit constitutionnel, c'est un droit acquis.
Vous avez le droit de garder silence.
On ne peut pas se prononcer là-dessus. C'est pas un signe de culpabilité puis c'est pas un signe de non-culpabilité. Tu peux pas dire, mettons, si toi tu t'es arrêté demain puis t'as gardé silence, tu peux dire « Ah, oh, tu parles pas, ça veut dire que tu l'as fait vu que t'as rien à dire. Mm-hmm. » Tu peux pas dire ça. Donc, on en parle très rarement et vu que c'est un droit acquis, on le touche même pas parce qu'on peut pas.
Ouais.
Mais dans le cas de troubles mentaux, là, c'était utile parce qu'on pouvait peut-être tirer des conclusions de ce silence-là, que ça soit pour la défense ou pour la poursuite. Bref, on en a parlé beaucoup de ce silence-là en interrogatoire policier.
OK.
Puis, on peut en parler pour son trouble mental, mais on ne peut pas en parler pour sa culpabilité après. Est-ce que vous me suivez? C'est quand même complexe.
Oui, oui.
Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en milieu de procès, on a rappelé une directive au jury en disant « En passant, on ne peut pas tirer inférence du droit au silence, c'est un droit acquis. » Fin de la directive.
Okay.
Mais on a continué à parler du silence de Carl Giroir durant tout le procès.
Mm-hmm.
On l'a utilisé en plaidoirie, les experts l'ont mentionné. Un expert disait que, vu qu'il a gardé le silence, ça veut dire qu'il comprenait et donc qu'il n'y avait pas de trouble mental, grossièrement.
Ouais,
et d'un autre côté, on disait, non, il a gardé le silence juste parce qu'il ne voulait pas en ajouter et parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait, donc il y avait un trouble mental. Tu sais, tu pouvais le voir des deux côtés, ça dépendait du psychiatre. Puis, en fin de procès, on n'a pas rappelé la directive du droit au silence.
Pis c'est ça le reproche?
Oui, parce que la défense disait que c'était essentiel de le rappeler et aussi d'amener plusieurs détails en disant « Vous pouvez l'analyser pour les troubles mentaux, mais vous ne pouvez pas l'analyser pour la culpabilité ensuite. » Il fallait donner plus de jus là, entourant ce droit au silence-là et ça n'a pas été fait. Et la Cour d'appel estime que ça a un poids important dans la décision étant donné que c'était quand même au cœur du procès.
Ça devient pas contre-productif de reprendre un procès à zéro pour un point de droit?
Ben c'est l'essence même de la Cour d'appel.
Là, il y a des gens qui se posent des questions. Judith, pourquoi ça a été aussi long avant que cette décision-là soit rendue?
C'est une bonne question. Ça fait un an et demi qu'ils l'ont plaidé devant la Cour d'appel. C'est tellement technique. Puis c'est trois juges qui doivent se prononcer. C'est jamais un là, qui doit arriver à un consensus et... Je veux dire, le code criminel est épluché dans ce temps-là, puis ils ont d'autres cas à rendre. Mm-hmm. Des fois, c'est plus long, mais là, c'était long. Là. J'avoue
que ça serait pas plus simple de rasseoir le jury, puis ensemble, puis leur dire...
Ça changerait-tu de quoi, sachant ça?
Ouais, oubliez toute cette partie-là, puis reprenez une décision.
Non,
c'est ça.
Non, refaire un jury impartial.
Ça, c'est... On reprend zéro. C'est nouveau jury.
Oui, nouvelle directive. Et là, je peux dire que s'il y a un nouveau procès là-dedans, on va parler du droit au silence.
Question, Judith. Est-ce qu'on peut tenir compte dans ce procès-là du comportement de Carl Giroir depuis son incarcération, si on est en mesure de prouver si oui ou non il y a un réel trouble mental?
Non, parce que
on est figé dans le temps.
Le procès porte sur ce qui est arrivé en l'Halloween 2020 avec les informations qu'on avait à partir de ce moment.
Puis là, la question, c'est il était-tu conscient mentalement ou pas? C'est ça la question, dans le fond.
Si, il était schizophrène, puis à ce moment-là, il était dans une psychose quelconque.
Il a quand même tué du monde, là.
Oui, mais ça, il le nie pas, là.
Ce qu'il nie, c'est sa responsabilité.
Criminel, oui.
En attendant le nouveau procès, ça peut prendre combien de temps? Puis j'imagine il est quand même derrière les barreaux de manière préventive.
Oui, oui,
ou...
il est toujours détenu. Là, ce qui va arriver, c'est que on le remet sur le rôle qu'on appelle. Donc, il revient aux prochaines assises pour déterminer la suite des choses. Il y a possibilité d'envoyer la cause devant la Cour suprême, qui eux, est au-dessus de la Cour d'appel. Tout ça va être analysé par le DPCP et la défense. La défense, évidemment, se réjouit de la décision. Là, c'est ce qu'ils ont plaidé en appel. Puis, Maître Pierre Gagnon, l'avocat de Carl Giroir, avait dit tout de suite là, après la fin du procès au printemps qu'il allait porter en appel et c'est ce qu'il a fait et ses arguments ont été retenus.
Question d'auditeur, pourquoi les procès ne sont pas enregistrés avec seulement un nouveau jury qui se retape le procès comme on se tape une reprise à TV pour tout recommencer à zéro au lieu de ramener les gens, les témoins, les victimes, les proches, puis oui, par souci d'économie aussi là.
C'est une bonne question.
C'est pas une idée bête. Hein?
Ben parce que le procès va changer. Parce que là, la poursuite peut amener différentes choses en preuve. Et le droit au silence ne va pas être amené de la même façon cette fois-ci. T'sais.
OK.
On peut se rectifier le tir là, avec ce deuxième procès-là. On n'est pas obligé de faire tout pareil. Là. Ça va être à la poursuite de voir comment ils vont amener ça.
Gilbert Rozon.
Oui.
Condamné, mais au niveau de ce que les victimes demandaient versus ce que Gilbert Rozon paye, c'est seulement 15% de la somme.
Mm-hmm.
Comment faut interpréter un jugement comme celui-là?
Ben, tu sais, le jugement, il est long, là. Il est plus des centaines de pages. Ce qu'il faut retenir davantage, c'est qu'on a cru ces femmes-là. Et que, tu sais, je vous le dis souvent, là, c'est la preuve de la balance des probabilités. Donc, c'est plus probable que ces femmes-là ont été agressées que non. Et déjà là, ça, c'est la victoire de ces femmes-là. Puis c'est ce jugement qui s'inscrit dans la jurisprudence à partir de maintenant. C'est la même chose pour les sous qui ont été octroyés.
Mm-hmm.
Parce que les sous sont dans des fourchettes qui sont établies en matière de violence sexuelle. On ne peut pas déroger de ces fourchettes-là parce que là, on a un procès qui est hautement médiatisé, parce qu'on attend ça depuis longtemps, puis parce que ça a fait beaucoup...
Parce que la personne est plus riche. Donc,
c'est ça, on ne peut pas tenir compte de ces aspects-là. Oui, si la personne est riche, on peut en tenir compte souvent, ça rentre dans les critères, mais on ne peut pas s'éloigner des fourchettes qui ont été établies. Puis les fourchettes, elles montent là, tranquillement, pas vite, mais on ne peut pas faire un saut de autant de ce qui avait été demandé. Là.
Mais comment un juge peut établir « Toi, je te crois pour 80 000 $ puis toi, je te crois pour 73 000 $
En fait, c'est...
c'est dur à comprendre pour nous autres.
C'est les préjudices subis. Souvent, on va évaluer les conséquences que tu as eues à cause de cette agression-là. Et donc, on va analyser qu'est-ce que ça vaut. Et oui, c'est pas une science exacte. Là. Ça peut
si je dis, moi, que j'étais en dépression depuis puis que je suis pas retournée travailler puis que ça fait le pas, j'aurais de l'argent de plus.
Bien, il faut que tu le prouves. Là. Puis souvent, mettons, je te fais un exemple vraiment là, hors contexte, mais mettons que tu as souffert d'une attaque physique et que quelqu'un t'a frappé à l'épaule et puis que tu as des douleurs à l'épaule depuis ce temps-là et que t'as consulté, puis là, t'as des médicaments et tout, puis t'as un diagnostic. Puis qu'au même moment, deux jours plus tard, après cette attaque-là, t'es tombé aussi sur le trottoir parce que t'as perdu l'équilibre. Bien, il y a une part de ta blessure qui s'explique parce que tu t'es fait donner un coup à l'épaule, mais il y a une autre part qui s'explique parce que tu as tombé. Fait que c'est pas la totalité de toutes les douleurs que tu ressens qui sont expliquées par l'attaque que t'as subie. Donc, tu peux juste recevoir des sous pour les dommages qui sont directement liés par le tort qui t'a été causé. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je comprends, mais il y a comme deux façons de voir la nouvelle aujourd'hui, puis je suis content de voir que les victimes célèbrent puis sont contentes du jugement, mais il y a comme deux façons de le voir, j'ai l'impression, pour le message que ça lance à des victimes d'agressions sexuelles. Parce que, oui, il y a 8 des 9 témoignages qui ont été considérés comme suffisamment crédibles, parce que la 9e personne, il y en a une qui ne reçoit rien, là, de ce que j'ai compris.
Ouais.
Là. Mais la différence... Je veux dire, il demandait 14 millions au total. Ouais. Finalement, c'est 880 000 $. C'est l'équivalent d'un ticket pour Vite Teinté à Québec, là, ou à peu près, là, pour Gilbert Rozon, là, sans faire de mauvaises allusions à l'actualité actuelle. Il y a comme deux façons de le prendre, je trouve. Ouais. Tu peux le prendre de façon très cynique puis dire, ben finalement, il n'aura même pas payé 1 million, puis lui, sa vie va continuer, puis tout va être correct. Là.
Je pense que c'est facile de le voir comme ça de l'extérieur parce que tu t'imagines qu'on... qu'on va lancer un message avec ces cas-là.
Ouais.
Mais on ne peut pas avancer plus vite que ce que la justice permet de faire.
Mm-hmm.
Donc, peut-être qu'un jour, on va se rendre là. Peut-être qu'un jour, ça va en arriver là. Puis comme tu dis, on va payer avec notre salaire. Si on est riche, on va donner plus. Mais pour l'instant, la juge, pour ne pas justement se faire taper sur les doigts puis aller en cour d'appel, il faut que tu établissent les sous selon les fourchettes qui sont existantes présentement dans la jurisprudence.
Parce que sinon, Roson va en appel.
Ben, il peut y aller pour d'autres raisons.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi il demandait 14 millions de bord si c'était impossible qu'il obtienne 14 millions parce que les fourchettes...
Okay. Je pense pas que c'est possible avec la décision qu'il y a eu, mais... Ça va être à voir. J'ai envie de dire que tu y vas le tout pour le tout, puis t'attends de voir ce que la juge va en penser. Là. On sait jamais ce que les juges peuvent en penser, justement. Fait rendu là, ça va être à voir comment on va évoluer après ce jugement-là.
Parmi les cas que tu surveilles cette semaine au Palais de justice de Québec, il y en a un en particulier que tu voulais nous jaser peut-être, Guy John Kazongo.
Oui, c'est un procès devant jury. Qui a commencé la semaine dernière.
Okay.
Puis, ça rappelle Paul Mackenzie.
Oui, je me suis même demandé si ça provenait de la même branche religieuse, mais c'est pas la même chose. Là.
Non, c'est un pasteur, quelqu'un qui se dit pasteur, qui était avec l'Église universelle de Jésus-Christ.
OK.
Ça, c'est une église qui a un local à Québec. C'est moins gros que l'église de Paul Mackenzie, je pourrais dire, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment un pasteur qui aurait agressé sexuellement une de ses fidèles. Il avait le rôle d'un père pour elle. Elle l'appelait papa, puis elle appelait la victime ma fille aussi dans le dossier. Puis au travers de ce lien de confiance-là, il y aurait eu des agressions sexuelles pendant des prières.
Pendant des prières?
Mon Dieu.
En fait...
Comment est-ce qu'ils prient, eux autres?
Il prie.
Il prie comment?
Comment t'expliquer? Dans le fond, ce qui est allégué, c'est que il venait chez elle pour l'aider à prier parce qu'il sentait quelque chose par rapport à elle de plus fort au travers des rêves qu'il avait, c'est beaucoup avec les rêves, et il voulait l'aider, à prier. Puis, ce qu'elle allègue, c'est qu'il lui a demandé d'acheter de l'huile de palme pour pouvoir s'insérer les doigts dans le vagin pendant la prière. Donc, ça a commencé comme ça. Puis au fil des rencontres et des prières, c'est lui qui a finalement eu des touchés sexuels sur elle pour en venir à une agression sexuelle complète.
Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à messe. Est-ce que c'est prouvé d'une façon ou d'une autre que de l'huile de palme et des doigts dans le vagin peuvent aider ou faciliter le lien avec Dieu?
C'est pas dans la preuve.
OK, bon, d'accord.
Je
demande pour les curieux.
Je te laisse à ton interprétation.
Ça peut que ça soit difficile, donc en cours, c'est ça?
Moi, ma curiosité se penchait sur le produit.
L'huile de palme?
L'huile de palme.
Pas canola, pas tournesol.
C'est très mauvais goût, là.
Est-ce que c'est des questions techniques qui seront abordées au procès? Non, pas nécessairement.
Ce qui est abordé, c'est plus le lien de confiance et d'autorité que cet homme-là avait auprès d'elle parce que c'était une femme majeure et donc...
qui a immigré seule.
Elle pouvait consentir, oui.
Ouais. Vulnérable, définitivement.
Et cet homme-là était vraiment là, son guide spirituel. Il avait un peu le contrôle sur beaucoup de choses. On allait le voir pour des conseils, pour se confier. Et donc, c'est sur cette posture d'autorité-là qui rendait là, les gestes commis... qui, elle, la rendait encore plus vulnérable. Fait que ça, c'est allégué. Lui doit témoigner. Il témoignait déjà aujourd'hui. Il va continuer à témoigner. Lui dit que... C'est pas comme ça que ça s'est arrivé. Évidemment, il nie les agressions et il dit que c'est plutôt elle qui voulait avoir des relations sexuelles avec lui.
OK. Je pensais qu'il avait dit j'avais mis de l'huile de palme, mais j'ai glissé jusque. Des fois, on entend des drôles de choses au palais de justice.
Des fois, il y en a qui expliquent les choses de drôles de façon. Là.
Moi, en tout cas, on me dit que. Parce que j'ai beaucoup de religieux dans ma famille, fait que je connais pas mal mon Nouveau Testament et mon Ancien Testament par cœur. Rarement pour faciliter la prière, ni Jésus avec ses apôtres, ni dans l'Ancien Testament où il y a des affaires assez élevées, là, jamais de doigts insérés avec de l'huile de palme. Fait que si jamais quelqu'un dans l'Église universelle de Jésus-Christ ou toute autre église liée de près ou de loin à Jésus-Christ, de l'huile de palme dans les orifices n'aide pas à la prière et au recueillement.
C'est une tristesse, par exemple, quand tu y penses. Là.
Oui. Ouf.
Ben, cette madame-là, ce qu'elle a raconté, c'est qu'elle s'en est rendue compte quand elle a commencé à discuter avec d'autres fidèles de l'Église, à savoir si eux aussi avaient eu le même traitement. Et quand on lui a dit que non, ben, c'est là qu'elle a réalisé qu'elle se faisait peut-être avoir. Parce qu'elle a questionné, elle aurait questionné le pasteur durant ces agressions-là, à savoir qu'est-ce que ça aide avec la prière. Tu sais, elle voulait comprendre, puis lui ne donnait pas de justification ni d'explication. Donc, elle a commencé à se poser des questions, puis elle est allée porter plainte à la police.
On va surveiller ça. Judith, encore une fois, merci. Bravo pour ton grand professionnalisme qui t'honore. Je te mets pas toujours ça facile. Mais t'es extraordinaire. Vous pouvez lire les textes de Judith dans Le Soleil. Il est 17h04. On fait une courte pause, puis on revient. Audrey, viens-tu m'aider pour la prière?
Non, Denis.
Non, pas besoin. Ah, excusez.
Gravel.